11h24, on est de retour dans Trudeau-Landry, 25226 pour nous rejoindre par messagerie texte. 1-877-670-9330, c'est le numéro de téléphone. Évidemment, ça a défrayé la manchette depuis quoi hier soir? Le décès de Bernard Lachance, qui était un auteur, compositeur, interprète, qui avait fait, Jérôme, beaucoup parler de lui aux alentours de quoi 2009, alors qu'il avait réussi à se faire inviter à l'émission de Oprah Winfrey pour un spectacle qu'il mettait en vente au Chicago Theater.
Il a fait ça au Capitole, ici à Québec aussi.
Oui, au Capitole aussi. Puis, j'ai vu Place des Arts aussi. Bref, il avait parlé de lui pas mal, avait acquis une certaine notoriété. Au cours des derniers mois particulièrement, il y a des gens qui ont été sensibilisés à un certain dérapage du côté de Bernard Lachance, qui était collé sur le discours des complotistes, notamment pour la COVID-19, mais également pour le VIH. Parlant d'un complot mondial, etc., etc. Même une entrevue avortée avec Denis Lévesque, là, qui était devenu viral sur les médias sociaux. Bref, Bernard Lachance est décédé hier matin à l'âge de 46 ans. Et dans les médias, on peut lire des propos de ses deux sœurs, Marie-Claude, également Lise, sa mère également, Madame Côté, qui, évidemment, déplore son décès et la dérive de son discours. Et Jérôme, je veux dire aux auditeurs que lorsqu'il y a des événements tragiques comme ça, moi, j'ai toujours le réflexe d'être très prudent, de pas faire en sorte que les gens se sentent obligés d'aller dans les médias parler. Je pense qu'il faut respecter des fois le deuil, il faut respecter la confidentialité, l'anonymat, mais en même temps, je trouve qu'il y a là un message qui est très important à véhiculer. J'ai réussi à entrer en contact avec une des deux sœurs, donc de Bernard Lachance, Lise Lachance, qui a accepté de nous parler ce matin, donc pour sensibiliser les gens, pour raconter l'histoire de son frère. Alors, Lise Lachance, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Lachance, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, je vous offre mes plus sincères condoléances pour la perte de votre frère. J'imagine que ça ne doit pas être évident.
Non, merci beaucoup.
J'ai envie avec vous de commencer par peut-être dresser le portrait de qui était votre frère Bernard. Parce que j'imagine que la personne qu'il était devenu dans les derniers mois, c'est pas nécessairement celui avec qui vous avez grandi, celui que vous avez connu, ou peut-être vous me direz le contraire, mais si vous aviez à me dresser un portrait de votre frère avant ces espèces de dérives-là, complotistes et tout ça, c'était qui votre frère Bernard Lachance?
Bernard, c'est quelqu'un de... Il a déjà dit à ma mère, dans vie, on n'a jamais de raison de pleurer, sauf quand on fait de la température, quand il était tout petit. C'est un jovial, c'est un gars dynamique, qui était toujours en train de faire des blagues, puis qui avait plein de projets. C'est un artiste, un bon musicien, un bon chanteur, puis quelqu'un avec qui on avait du fun. Puis là, c'est sûr que ça a pris une autre tournure là, avec les années.
Comment ça a commencé, ça? Comment vous êtes aperçu, puis à quel moment vous avez réalisé qu'il était dans une espèce de déni, puis dans les idées complotistes? Est-ce que ça a commencé avec le VIH? Comment tout ça s'est passé, là?
Non, mais moi, j'ai coupé les ponts avec Bernard bien avant qu'il soit complotiste, et même message aux complotistes avant qu'il... Il dénigrait les complotistes.
Ah oui.
Oui, oui, oui. Il a changé bout pour bout. Là, quand j'ai coupé les ponts, c'était en 2016. Puis je n'en reviens pas des idées qu'il avait, considérant ce que j'ai connu de lui. Là, c'était un gars très terre à terre, qui croyait à la science et au gros bon sens, comme selon moi ce que j'entends par gros bon sens. Donc, il y a quelque chose là qui a dérapé dans sa tête là par la suite, après que j'ai coupé les ponts.
Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Est-ce que c'est un certain discours qui a fini par le séduire, j'imagine, sur Internet? Jérôme parlait de l'impact que la maladie aurait pu avoir. Si vous avez, j'imagine, vous avez essayé de vous l'expliquer, pourquoi c'est arrivé ce dérapage-là?
Écoutez, moi je pense que je pense qu'il a pas accepté sa maladie. Je pense que lui, Bernard, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup attirer l'attention. et puis même en être narcissique. Il pouvait aller jusqu'à faire du tort pour pouvoir avoir l'attention aux autres. Il était capable d'aller là. Et puis, que Bernard Lachance ait le sida, ça se pouvait pas. Donc, j'ai l'impression... Écoutez, c'est très complexe. Qui suis-je, moi, pour affirmer... C'est pas une affirmation que je dis là, c'est une intuition. Je suppose que dans sa tête, prendre ses médicaments chaque jour, puis se rappeler lui-même... en prenant sa trithérapie, qui devait prendre ça, lui, Bernard, le grand Bernard Lachance, ça se pouvait pas. Donc, il devait probablement avoir un coupable ailleurs qui était coupable de sa descente, finalement, là, parce qu'avoir une maladie, c'est pas évident à accepter non plus, là. Puis, le fait aussi que sa carrière n'ait pas fonctionné. Je pense que ça a beaucoup joué au niveau psychologique. Il arrêtait pas de dire, là, il vendait des chiens, là, il y avait un chenil. Les chiens, c'est pas ma vie. J'ai pensé à Oprah. Je vais recommencer à chanter. Donc, il y avait un gros deuil à faire à ce niveau-là qui était un petit peu trop lourd à supporter. Puis, je pense qu'il est allé chercher l'attention qu'il a toujours cherchée dans ces suiveux là de complot. C'est ma interprétation.
Très intéressant, puis c'est spécial. Il semblait avoir une détresse reliée à ça. Puis est-ce que au moment où
je pense sincèrement que c'était un être malheureux.
OK.
Qui était en détresse puis qui était pas bien avec lui-même. Sincèrement, puis ça n'en faisait pitié. Moi, mon deuil de Bernard, je l'ai fait il y a des années quand j'ai réalisé quand j'ai coupé les ponts et que j'ai réalisé qu'il fallait que je m'éloigne de lui pour sauver ma peau à moi, malgré que je l'aimais, là, c'est là que j'ai commencé à faire mon deuil de Bernard.
Mais quand il arrête sa trithérapie, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de le convaincre? Je sais pas, vous aviez coupé les ponts, mais y a-t-il des gens qui ont essayé de dire, « Hey, Bernard, qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça. Sors du déni. »
Même dans les derniers moments, il y a un médecin qui est allé le voir, un ami médecin qui est allé le voir en ami pour lui dire, « Ça n'a pas de sens. Va à l'hôpital avoir des soins, au moins pour terminer. » Il a jamais voulu avoir les conseils. Là, je sais pas pourquoi. Il a presque mis à la porte son médecin, son ami. Non, il n'y avait rien à faire, là. Il était complètement dans ce trip-là là, de consommer des produits naturels pour s'en sortir. Il y avait eu une prescription là, d'une spécialiste là, d'aliments naturels pour se purger. Ça a l'air que ça l'a complètement déshydraté. À la fin, il pesait 114 livres. Puis il est grand, là, Bernard. Il était squelettique. Puis c'est ça, là. Il s'est mis à vomir, aller. C'était terrible, là. Puis il s'est complètement déshydraté. Et puis là, il a appelé la fille en question qui a vendu le produit, puis il a dit « c'est normal, t'es en train de te purger de tous les médicaments chimiques que t'as pris toute ta vie. » Voilà. Puis lui a cru ça.
Incroyable.
Je vous parlais du fait que bon, vous aviez coupé les ponts en 2016. Qu'en est-il du reste de la famille? Bon, il y a votre sœur Marie-Claude qui est citée, il y a votre pauvre mère également qui a parlé à certains médias. Est-ce que pour eux aussi les liens avaient été coupés? Je pense particulièrement à votre mère, ça doit être épouvantable.
Ma mère, elle trouve ça très très dur. Ouais. Très très dur évidemment, puis elle a trouvé ça dur de le voir aller comme ça, puis surtout qu'il lui mettait beaucoup de pression par rapport au fait qu'il respectait les règles de distanciation, etc. Puis elle n'a pas dormi la nuit. Elle avait peur de lui, carrément. Là. Fait que c'était pas drôle du tout. Ma sœur a coupé les ponts pas aussi drastique que moi. Par la suite aussi, et plusieurs de ses amis aussi. Ce qui fait que j'ai été très, très, très rassurée de savoir qu'il n'est pas décédé seul. Il y avait une personne incroyable qui était avec lui jusqu'au dernier moment, qui s'est occupée de lui, puis une personne qui s'est fait lui-même dénigrer. Je ne sais pas comment il a fait pour rester avec lui jusqu'à la fin. Bernard, ceux qui le connaissent de loin voient le côté le fun que j'ai décrit en début d'entrevue, mais dans l'intimité, il était pas évident. Là. Il était vraiment... c'était pas facile, là, une relation avec lui intime. Là. Donc, j'étais très soulagée de savoir qu'il était pas seul, parce que c'est de ça que j'avais le plus peur pour lui. Donc, au moins ça. Puis, écoutez... c'est triste, c'est d'une grande tristesse. Puis la raison pour laquelle je tiens à le dire, la raison pour laquelle je veux parler dans les médias, parce que vous avez été effectivement très respectueux, vous m'avez pas tordu un bras, c'est que je veux passer le message à des gens qui ont le VIH puis qui hésitent à prendre la trithérapie. Prenez-la, la trithérapie, ça marche. Ça fonctionne. Faites confiance aux médecins. Ils sont là pour vous aider. Je suis pas contre les médecines naturelles. Là, je suis pas contre les produits naturels. Mais à un moment donné, ça a ses limites. Puis il faut aller consulter des gens compétents. S'il vous plaît. Laissez-vous pas mourir comme ça.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, sur les réseaux sociaux, exploitent les gens vulnérables, puis les gens qui sont peut-être en détresse, justement, puis qui se servent, justement, qui publient des vidéos complotistes, qui publient toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et qui exploitent, justement, les gens qui cherchent des réponses, qui sont en détresse? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui gonflent leur popularité de cette façon-là?
Ben, je trouve ça désolant, évidemment. C'est terrible. Mais je vous dirais... En même temps, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je pense que ça va toujours exister.
Oui, les charlatans.
Mais ce que je trouve le plus désolant, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est la haine. C'est l'espèce de... Là, je vois sur mon mur, là, il y a plein de gens qui me disent d'enlever les messages de haine, mais moi, je fais le contraire, je regarde ça. Jusqu'où ça peut aller? D'un côté comme de l'autre, là. C'est à un moment donné, les complotistes, vous allez peut-être être étonnés de mon commentaire, mais les complotistes font partie de la société. On n'enlèvera jamais ça. C'est pas en les écrasant, puis en les humiliant qu'on va réussir à passer un message d'un côté comme de l'autre. Donc, moi, je suis pas capable d'enlever ces commentaires. Je veux le voir jusqu'où ça peut aller. Cette haine-là, d'un côté comme de l'autre, je suis contente qu'il y en ait qui prennent ma défense, là, puis qui disent « lâchez-la, elle a un deuil à vivre, puis c'est bien, mais en même temps, arrêtons-nous, là. Arrêtons-nous de nous lancer des flèches tout le temps. » Haineuse, c'est fini. Ça aussi, j'imagine, faut apprendre à vivre avec ça dans notre société. Mais mon Dieu, je suis plus capable. Là, ça n'a pas de sens.
Il y a des gens qui disent oh, est quand même, tu sais, sévère dans ses commentaires à l'endroit de son frère qui est décédé. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, ce que je note dans votre discours, dans votre ton, c'est que il y a vraiment un mélange de tristesse parce que vous l'aimiez, votre frère, là. C'était pas un choix, c'était pas par gaieté de cœur que vous vous êtes éloigné de lui. Donc, vous l'aimiez, donc vous êtes triste, mais vous êtes fâché aussi qu'il y a des gens qui en arrivent là.
Ben, ma sœur, quand j'ai coupé les ponts, il avait dit à ma sœur, Lise, elle m'aime plus. Puis elle lui avait répondu, non, Bernard, Lise, elle t'aime. Elle se protège. C'est pas pareil. Puis c'est vraiment ça. Moi, là, quand j'ai coupé les ponts, j'ai braillé les larmes de mon corps. Ça a été extrêmement difficile. Puis les gens qui me disent que je l'aime pas, là, puis que je manque de respect, ils ont pas vécu ce que j'ai vécu avec lui. Ils savent pas. Ils savent pas. Je leur en veux pas, ils savent pas. Mais encore une fois, pourquoi tant de haine? Ils savent pas d'où ça vient, mon message. Qu'est-ce qu'il y a derrière le message que j'ai écrit? C'est quoi qui fait qu'eux autres, ils ont décidé que je suis une mauvaise personne et que je voulais blaster mon frère? D'où ça part, ça? C'était qui pour juger, là? Fait que en même temps, je prends acte de ça. Je me dis, bon, ben écoutez, c'est ça. On est entouré d'êtres humains aimants et haineux. Il faut faire avec, mais Oui, je l'aimais, mon frère. Puis mon frère, je pense qu'il m'aimait aussi. On s'aimait. Mais à un moment donné, là, quand ça devient, on devient plus malheureux d'être dans une relation que le malheur de couper les ponts, ben on coupe les ponts. Puis jamais je ne regretterai d'avoir fait, parce que ma vie a changé après. Ma vie a changé pour le mieux après avoir coupé les ponts à Bernard. C'est pas de le caler que je, de dire ça, c'est la réalité de mon vécu à moi.
Madame Lachance, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous parler. C'est une période qui est pas évidente pour vous. Encore une fois, nos sympathies puis bon courage à vous, à votre sœur, à toute la famille.
Merci.
Merci, Madame Lachance.
Au revoir.
OK. Lise Lachance, donc, sœur de Bernard Lachance, puis... On voit qu'elle était très émotive, là, mais pour ça, je lui posais la question à la fin, Jérôme, c'est qu'on voit qu'il y a un mix dans les émotions, là, c'est-à-dire la tristesse qui est apparente, mais aussi la colère, là, parce que au-delà du cas de Bernard Lachance, on connaît pas mal tous des gens ou dans des familles, des fois, il y a des situations qui font en sorte que même si t'aimes la personne, même si tu voudrais continuer à faire des efforts pour aider quelqu'un, si la personne ne veut pas s'aider, si tu finis par plus te nuire à toi-même, à un moment donné, t'as pas le choix aussi de couper les ponts.
C'est vraiment comme des gens qui nous écrivent au 25226. Ça ressemble un peu à l'emprise qu'ont les sectes sur certaines personnes, tu sais, qui là, la famille doit lâcher prise à un moment donné parce que t'aimes la personne, tu veux pas la perdre, mais à un moment donné, c'est toi qui coules. Si t'essaies tout le temps de la sauver, puis d'essayer de la convaincre, c'est toi qui peux finir par couler, mais ça fait énormément réfléchir cette entrevue-là, Joe. Moi, j'ai retenu, quand elle nous a parlé, du narcissisme de son frère. Mm-hmm. Tu sais, ici, dans l'émission, on prétend pas avoir la vérité infuse, là. C'est pas ça du tout l'idée, là. Mais combien de fois on a parlé de ça, Joe, du narcissisme de certains complotistes qui essaient de se bâtir un personnage qui carbure aux likes, aux abonnés Twitter, aux messages d'appui qu'ils reçoivent de gens vulnérables. Combien de fois on a parlé de ça? Puis il y a des experts qui nous en ont parlé aussi, du profil narcissiste et en même temps anxieux puis en détresse de certains complotistes. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en détresse, qui vont s'abreuver de ces vidéos-là justement pour trouver des réponses à une situation qui est vraiment tough pour tout le monde, là. Puis il y en a qui exploitent ça.
Elle
décrit très bien, là.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi 100%, mais d'autres éléments en plus de ça, là, que j'ai noté, les effets pervers de la célébrité instantanée.
Oui.
Aussi.
Oui.
Tu sais, l'espèce, après ça, de quête, de recherche, de retrouver ça, de pas être capable de s'accomplir dans rien. Puis aussi, ce qui est caractéristique, on en a souvent parlé, là, on a parlé à des spécialistes aussi, là, c'est pas juste notre opinion ou un feeling ou une hypothèse, mais les caractéristiques des conspirationnistes, de gens qui veulent fuir la réalité.
Ouais.
Qui sont dans un mode de négation.
C'est l'anxiété qui fait faire.
Anxiété, pas capable de reconnaître les faits. Ça les amène à être confortés par un discours qui pour bien des gens, n'a aucun sens. Mais pour eux, ça vient justement patcher les endroits où ils se sentent plus vulnérables.
Parce que la réalité est
dure. Là-dedans.
La réalité, quand tu décides de regarder la réalité en pleine face depuis 14 mois, elle est dure, la réalité, là. Des morts, du confinement, l'économie qui était à terre pendant une bonne période. On sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est dur à encaisser cette réalité-là. Puis il y a des gens qui décident de l'affronter. Puis c'est pas tout le temps facile. Pas facile de personne. Mais il y en a qu'au lieu de décider de l'affronter puis d'encaisser la réalité puis de dire « OK, c'est quoi la solution? » Il y a mieux se réfugier dans des théories complètement loufoques. Des théories complètement loufoques qui sont moussés par des manipulateurs puis des gens qui font de l'argent puis qui gonflent leur propre popularité narcissique avec ça aussi.
Puis bref, on me disait là qu'entre autres sur sa page Facebook, je pense là, à Bernard Lachance, il y a des gens qui continuent, et c'est une caractéristique des conspirationnistes et des négationnistes, vont toujours trouver la bonne réponse lorsqu'ils sont confrontés là, à leur discours. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, Bernard Lachance, dans le fond, c'est une victime. »
C'est
ça. Les
gens
qui viennent dire « Dans le fond, ah, on le sait qu'ils t'ont eu, qu'ils t'ont... » Tabarouette, là. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire là, pour que les gens comprennent que Bernard Lachance, malheureusement, est décédé parce qu'il a refusé de se soigner, de se faire soigner.
Déshydraté par des thérapies genre alternatives. Puis là, check bien ça, allez, Joe, là. Là, la vaccination avance. On est en train de sortir tranquillement pas vite de ça. Il va avoir un retour à la normale. Je sais pas, cet été, cet automne, hiver prochain. Puis là, il y en a qui vont dire, regardez, on vous l'avait dit. Hein? On vous l'avait dit qu'il fallait déconfiner.
Exact.
Il y en a qui vont voir exactement ce... Puis là, vu qu'on va s'en être sorti, donc il va y avoir moins de cas, on va être... Puis là, ils vont vous dire, regardez, on avait raison. On déconfine, puis il n'y a plus de cas. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu du confinement, il y a eu de la vaccination. Non, non, ils vont te présenter ça comme ça, en disant, regardez comment on avait raison
exact.
De dire que ça donne rien, le confinement. On est rendu en janvier 2022, là, on est déconfiné, c'est Noël, puis regardez, il n'y a plus de cas. Il y en a qui sont manipulateurs à ce point-là.
C'est hein. Comme si tu prends un dé, là, tu brasses un dé, puis moi, je te dis, tu vas voir, ça va être 6. Là, tu brasses, puis c'est un 1. Oups, là, tu le rebrasses, puis tu vois, ça va être 6.
Ouais, c'est
là, c'est un 3. Et tu vois, ça va être 6. Là, c'est un 5. Au bout de 7-8 coups, là, tu tombes sur le 6. Tu l'avais dit que ce serait 6. C'est ça que les complotistes vont faire, là, entre autres, pour la COVID. Mais bref, pour le VIH, c'est tellement triste parce que c'est devenu... Certains même qualifient le VIH de maladie chronique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre une vie saine, accomplie avec
la trithérapie. Ça augmente même... l'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui est séro-négatif.
La science. La science qui a fait ça, d'ailleurs.
La science, exact.
La science, la recherche des spécialistes. OK, on doit absolument s'arrêter. 25-226 pour nous rejoindre par messagerie texte 1-877-670-9330. C'est le numéro de téléphone.